chers amis, bonjour.
Bonjour.
Dans le centre du département du Lot, région Occitanie, non loin du gouffre de Padirac et des grottes de la grotte de Rocamadour, nous sommes dans cette région historique et naturelle du Quercy. Gramat, c'est une petite ville qui compte 3600 habitants, dont le centre historique est constitué de plusieurs bâtiments anciens intéressants, dont la tour de l'horloge, la tour Saint-Roch et la halle. Un marché se tient deux fois par semaine, d'ailleurs, sous la halle. Une commune qui est traversée par l'Alzou. L'Alzou, c'est un sous-affluent de la Dordogne. Le GR6 passe à proximité du Moulin du Sceau. C'est un moulin à eau, en partie en ruine, mais c'est un très beau site. Au Moyen-Âge, Gramat était une cité marchande, prospère, avec des foires, des marchés. Mais pendant la guerre de Cent Ans, beaucoup de dégâts ont été malheureusement fait, puis a succédé à cela la peste, la ville a été détruite, elle a même failli disparaître tout simplement. Rendez-vous compte, à la fin du XIVe siècle, il paraît qu'on ne comptait que 5 foyers à Gramat. La ville s'est relevée ensuite, peu à peu, grâce notamment aux paysans venus d'Auvergne et du Limousin, qui l'ont repeuplée. Mais au XVIe siècle, les guerres de religion et entre catholiques et protestants ont de nouveau fait des dégâts. Gramat fut la cible de pillages. Il a fallu attendre la fin du XIXe et l'arrivée du chemin de fer pour que Gramat retrouve toute son importance. Alors, je vous l'ai dit hier, Gramat, c'est une terre agricole, terre d'élevage, dans ce qu'on appelle les causes du Quercy. C'est le cause de Gramat, ici, dans ce parc naturel régional des causes du Quercy. Une petite ville de commerce et de services. C'est le lieu de formation cynophile de la gendarmerie nationale. Formation des hommes et dressage des chiens. C'est la seule école de ce type en France. D'autres animaux, pas destinés à être dressés, ceux-là, mais protégés, dans le parc animalier de Gramat. On peut voir des ours, des loups, des lynx, des hiboux, des bisons, encore des chevaux de Prévalski, originaires de Mongolie et menacés d'extinction. Ce parc animalier est ouvert toute l'année. Bienvenue dans ce Quercy et ce Lot où nous passons la semaine. À qui le tour de jouer aujourd'hui? À Liliane Banel et Jean-Claude Frappé. Bonjour Liliane.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez Toulouse, vous êtes venu pour le jeu ici?
Oui.
150 kilomètres au moins?
Oh, à peu près, oui.
À peu près 150 kilomètres. Vous en avez profité pour visiter le parc animalier de Gramat?
Oui.
Il est intéressant.
C'est super sympa, oui. Il y a des espèces qu'on ne voit pas dans les zoos. Et...
Par exemple, il y a un animal qui vous vient à l'esprit?
Le renard bleu, l'isatis.
Il est bleu, le renard bleu.
Gris-argenté.
Oui. Gris-argenté, d'accord. Il y avait un piège, c'est ça?
Ouais.
Liliane, vous travaillez à la poste, c'est ça?
Oui.
Dans les services postaux, courriers, financiers?
Courrier,
d'accord. On n'en dit pas plus. Elle me fait signe, c'est bon. D'accord. Alors, je salue Jean-Claude Frappé. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez un village de Corrèze.
De Corrèze.
Qui n'est pas très loin d'ici. Enfin, la Corrèze n'est pas loin.
Pas loin, mais enfin, une soixantaine de kilomètres.
Quand même, hein, oui. Bon, c'est bien 60. Liliane a fait mieux avec 150, mais c'est un bon début, Jean-Claude. Jean-Claude, vous aimez la vie, vous aimez profiter de cette belle nature qui s'offre à vous en Corrèze. Vous avez une passion particulière pour la collection de certains types d'outils. C'est très précis.
Outils préhistoriques.
Des outils préhistoriques.
Tout à fait.
Mais où les trouvez-vous, ces outils préhistoriques?
En surface, dans les champs.
C'est vrai, on en trouve.
Et il y en a, c'est incroyable la quantité qu'il y a.
On peut les ramasser si on les trouve.
Oui, bien sûr, c'est autorisé en surface.
En surface.
C'est interdit de faire des fouilles.
Faut pas creuser, c'est ça.
Ouais, les fouilles sont interdites, mais en surface, c'est autorisé.
Ah, ça c'est formidable. Et vous allez ouvrir un musée?
Non, pas du tout, mais enfin, chez moi, j'ai presque un musée. Ouais. Je viens de préparer une collection, mon fils me l'avait demandé, il est professeur de sciences naturelles, et il m'a demandé une petite collection pour son collège, donc j'ai préparé une collection d'une trentaine d'outils.
Ah, ça c'est bien.
Pour exposer.
Et pour exposer.
Ça, les gamins sont contents.
Et ils sont curieux, ils sont intrigués, ils posent des questions.
Oui.
Et c'est l'ouverture d'esprit grâce à l'outil, en quelque sorte, pour eux. Liliane Banel, Jean-Claude Frappé, les questions du jeu, vous les avez tirées au sort, c'est pas pour rien. Je suis là pour vous les poser, c'est un plaisir quotidien. Première question bleue d'Antoine Berthelin à Saint-Jean-de-Mont. Quel est le nom de cette seconde époque géologique du Mésozoïque qui a représenté l'âge d'or des dinosaures? Quel est le nom de cette seconde époque géologique du Mésozoïque qui a représenté l'âge d'or des dinosaures?
Le Crétacé.
Ce n'est pas le Crétacé.
Le Jurassique, alors?
C'est le Jurassique, voilà. C'était précisément le Jurassique qu'il fallait trouver. Le Crétacé fut aussi une époque des dinosaures, mais disons postérieure au Jurassique. Question bleue de Christine Morène. Christine Morène habite Carrières-sur-Seine dans les Yvelines. Comment pourriez-vous définir le mot sternutation?
L'éternuement.
C'est tout simplement l'équivalent, le synonyme d'éternuement, la sternutation. Bleu également, et cette question qui nous parvient de Saint-Jean-de-Ruel dans le Loiret, qui a été rédigée par Sylvie Dange et qui nous a envoyé sa question sur franceinter.fr. On désigne parfois les pays par des périphrases, rappelant soit des appellations locales anciennes, soit des caractéristiques géographiques. C'est ainsi que l'Empire du Milieu désigne la Chine, l'Hexagone désigne la France. Pouvez-vous retrouver les pays désignés par les périphrases suivantes ? Donc c'est une question à trois bandes en quelque sorte. D'abord la nation arc-en-ciel. Alors je passe à l'autre proposition, à l'autre demande, le plat pays.
Bah, la Belgique.
La Belgique, d'accord. Le rocher.
Monaco.
Monaco. Alors on revient, il nous manque la nation arc-en-ciel. C'est un terme, une expression inventé par un archevêque dans un pays dont il fallait reconstruire la paix civile après des tensions raciales, c'est le moins qu'on puisse dire.
Haïti, non ?
Pas Haïti, non, ce n'est pas ainsi qu'on appelle Haïti, la nation arc-en-ciel, c'est un autre pays. Pour l'instant, une question blanche de Juliette Salle à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. C'est une question qui concerne un terme à trouver. C'est à la fois la partie plate du gouvernail d'un bateau, c'est aussi une plante. Quel est ce mot à trouver ? C'est la partie plate du gouvernail d'un bateau et c'est le nom d'une plante. Ou plutôt, pardon, je dis une bêtise, une épice qui vient d'une plante. Oui, oui. Excusez-moi. Je ne pourrais pas vous induire en erreur. Donc, la partie plate du gouvernail d'un bateau est une épice issue d'une plante, d'un crocus.
Le safran.
Oui, le safran, oui, le safran.
Voilà, ben voilà, c'est plus simple comme ça. Le hein, c'est le safran, le safran. Alors, je vous ai aidé parce que j'avais dit une bêtise au début qui aurait pu, qui a peut-être pu vous troubler. Une question blanche aussi de Yann Crass à Pouzauges en Vendée. Quelle roche, une pierre calcaire, qui tire son nom d'une commune de Côte d'Or, a été notamment utilisée pour la construction de nombreux monuments, notamment l'Opéra Garnier à Paris ou le sol de la basilique Saint-Denis à Saint-Denis? Quel est le nom de cette roche qui vient du nom d'une commune de Bourgogne, de Côte d'Or précisément? Alors, c'est une roche beige avec des teintes rosées ou rougeâtres. Et on peut en faire des dalles. Ça remplace le marbre, disons. C'est un nom masculin. Le nom de cette roche...
Le travertin.
Pardon ?
Le travertin.
Le travertin.
Travertin.
Le travertin. Non, ce n'est pas ça. Désolé, je vous repose la question tout à l'heure. Voici la question rouge d'aujourd'hui. Liliane Banel, Jean-Claude Frappé. Question rédigée par Simon François à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Qu'appelle-t-on un virlangue ? Oui, parce que étonnamment, c'est masculin. Qu'appelle-t-on un virlangue ?
Ben un objet pour mettre la langue de côté en médecine.
Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un outil préhistorique non plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un virlangue ? Alors c'est lié au langage. Il y a des virlangues célèbres. Question reposée. Nous sommes dans la deuxième partie du jeu des 1000 euros sur France Inter, dès à présent. Et c'est d'abord une question bleue de Sylvie Dange de Saint-Jean-de-la-Rebelle dans le Loiret. Pouvez-vous nous dire quels sont les pays désignés par les périphrases suivantes ? Le rocher, vous nous l'avez dit, c'est Monaco. La principauté de Monaco. Le plat pays, le royaume de Belgique. Mais quel pays désigne-t-on par cette expression la nation arc-en-ciel ? Une seule réponse, attention.
L'Afrique du Sud.
C'est l'Afrique du Sud, car c'est Desmond Tutu qui avait inventé cette expression pour désigner son rêve de voir construire une société sud-africaine post-raciale. L'Afrique du Sud appelée Nation Arc-en-Ciel. Question blanche de Yann Crass, mais je pense qu'on prononce le S à la fin, de Pouzauges, en Vendée. Quelle est cette roche qui porte le nom d'une commune de Côte d'Or ? Ce type de roche, cette pierre calcaire, a été notamment utilisée pour la construction de monuments comme l'Opéra Garnier à Paris ou le sol de la basilique Saint-Denis. C'est un peu du marbre, disons, visuellement, qui serait beige, avec des teintes rosées ou rougeâtres. Mais c'est une pierre calcaire. Le nom d'une commune et le nom de cette roche.
Cipollin.
Ce n'est pas le cipollin, c'est le comblanchien. Ah oui.
Je connais. Mais ah oui. On le retrouve,
c'est ça, hein, c'est affreux ce jeu. Hein, ouais. Les questions, pas possible. Quand même, enfin, Yann Crass, envoyez une question sur le comblanchien. Le comblanchien. Yann Crass va donc recevoir à Pouzauges 30 euros de la part de France Inter. La question rouge de Simon François à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Je vous la repose, là aussi, une seule proposition de réponse. Qu'appelle-t-on un virlang ? Oui, étonnamment, c'est masculin d'ailleurs. Ça désigne quelque chose de particulier dans le langage. Si vous voulez, vous pouvez me donner un exemple de virlang, si c'est plus facile pour vous.
Une façon de parler différente, bon.
De l'argot, non ?
Je vais aller faire un petit tour dans la salle, puisque je vois qu'une dame au premier rang a envie de donner des réponses. On va peut-être offrir à cette dame un magnifique t-shirt France Inter. Bonjour madame, quel est votre prénom ?
Annie.
Alors, qu'est-ce qu'un virlang ?
Eh bien, c'est une difficulté à prononcer une phrase avec une répétition comme dans les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches ?
Archi-sèches, voilà, c'est un exemple de virlang.
C'est donc difficulté à prononcer.
C'est un groupe de mots difficiles à prononcer.
Voilà.
Et un exercice de diction aussi par la même occasion, on appelle ça un virlang. On peut aussi employer l'expression casse-langue ou fourche-langue. Ou bien donc virlang. Notre auditeur Simon François, ou François Simon, je ne sais pas quel est votre prénom et votre patronyme, monsieur. Quoi qu'il en soit, à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, vous recevrez 45 euros. Liliane Banel, Jean-Claude Frappé, merci d'avoir joué avec nous. 75 euros pour vous. Et la bande dessinée sur l'histoire de la 5e République. Ce sont les 60 ans de la 5e République, tout comme le jeu des 1000 euros, d'ailleurs, qui fête cette année ses 60 ans. Et cette bande dessinée de Thomas Legrand et François Warzala est coéditée par France Inter et Les Arènes. Bonne journée et à demain pour le spécial jeune, si vous le voulez bien.